La revue de presse internationale.
Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Et ce matin, ce n'est pas ainsi que l'on doit gagner une guerre.
Oui, jusqu'à présent, le contraste semblait assez saisissant entre, d'un côté, la campagne militaire menée par la coalition en Irak, soutenue par Washington, visant à récupérer Mossoul aux mains de Daesh, et de l'autre, la stratégie adoptée par Moscou et Damas contre les rebelles dans la Syrie voisine. En clair, précise ce matin The Washington Post, l'usage limité à la fois de l'artillerie et de l'aviation pour éviter au maximum les pertes de civils en Irak tranchait avec les bombardements délibérés d'hôpitaux, de magasins d'alimentation et parfois même de convois humanitaires en Syrie au prix de milliers de vies innocentes. Or voilà qu'un raid américain pourrait venir ternir pour le moins cette vision binaire de la réalité de la guerre. Des frappes menées la semaine dernière par la coalition semblent en effet avoir causé la mort d'au moins 150 personnes dans un quartier de Mossoul, provoquant aussitôt une vive émotion internationale, comme en témoigne d'ailleurs la une de l'hebdomadaire britannique The Observer, avec cette photo d'une petite fille accrochée, on l'imagine, au bras de sa mère, sous ce titre « S'accrocher à la vie ». Ce bombardement pourrait être non seulement le plus meurtrier pour les civils depuis le lancement de cette guerre contre Daesh, lancée en août 2014, mais aussi l'une des plus meurtrières depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Alors, si l'armée irakienne a reçu l'ordre d'interdire aux journalistes et aux humanitaires étrangers l'accès aux quartiers dévastés, les témoignages de rescapés n'en demeurent pas moins nombreux. Certains sont soulagés d'être enfin sortis de ce champ de bataille, d'autres sont encore hagards ou le visage tordu de douleur. Tous évoquent des dizaines de maisons détruites et des centaines de morts pour un front où ils estiment qu'il restait environ une quinzaine seulement de combattants de l'EI. Les journalistes du New York Times, eux, ont réussi à accéder au site. Plus d'une semaine après le bombardement, ils y ont vu des hommes fatigués portant des masques pour éviter la puanteur, fouiller inlassablement les débris pour essayer de trouver encore des survivants. Le plus souvent, leurs espoirs se heurtent à des corps inanimés, placés ensuite dans de grands sacs en plastique bleu, fermés par un zip et placés à l'intérieur d'un garage à côté des autres. Et puis parfois, un miracle se produit. Ali a lui survécu plusieurs jours sous les gravats de ses longues heures. Il se rappelle notamment avoir parlé à un autre voisin sous les décombres. C'était, dit-il, une conversation entre deux mourants.
Et à présent, Thomas Cluzel, responsable politique et militaire irakien, propose des versions très contradictoires de la tragédie.
Oui, les officiers de Bagdad, qui ont d'abord reconnu avoir commandé un raid aérien pour tuer un sniper posté sur un toit, évoquent désormais un carnage orchestré par les djihadistes qui auraient fait exploser le bâtiment après y avoir regroupé des civils. Et d'ailleurs, beaucoup de survivants racontent aussi ce qu'ils pensent être une stratégie de l'EI pour provoquer un carnage. Leurs snipers se postent sur les toits des maisons où ils forcent les gens à se regrouper afin d'attirer sciemment des raids aériens, accuse notamment un docteur interrogé par l'envoyé spécial du temps. Leurs snipers se postent sur les toits, mais jamais ils ne se postent au sommet d'une maison vide. Il faut toujours qu'il y ait des civils à l'intérieur. Certains disent que les snipers disparaissent ensuite, abandonnant les civils à la perspective d'un raid aérien, tandis que d'autres affirment qu'un sniper reste parfois en position à attendre une mort certaine en compagnie des habitants piégés. Un humanitaire kurde raconte lui avoir recueilli des témoignages sur des djihadistes plaçant des talkie-walkie dans les maisons ou les caves où les civils se terrent afin que le signal attire un raid aérien. Mais quelle que soit la stratégie donc de l'organisation État islamique pour entraîner dans sa chute la population de Mossoul, il n'en reste pas moins que la bataille pour la conquête de Mossoul Ouest s'avère désormais bien différente de celle de Mossoul Est. Ou dit autrement, au-delà du résultat d'une hypothétique enquête et du comptage des morts, il semble surtout que ce quartier de la vieille ville a été la cible durant au moins deux semaines durant de raids aériens et de tirs d'artillerie intensifs. Et en ce sens, cet incident dramatique, écrit The Observer, illustrerait une évolution du comportement des forces américaines depuis la prise au pouvoir du président Trump en janvier. Si les porte-parole américains nient que les règles d'intervention aient changé, la frappe de Mossoul semble suggérer que Trump a bien mis en œuvre sa promesse de lâcher la bride aux commandants. En clair, précise à son tour The New York Times, les conseillers militaires américains auraient reçu l'autorisation de faire appel à des frappes aériennes sans que celles-ci n'aient été pour autant approuvées par le quartier général. Déjà, le 29 janvier, un raid controversé au Yémen, approuvé par le président Trump, avait tué une dizaine de civils. Rappelle pour sa part The Washington Post. Par ailleurs, un raid aérien des États-Unis dans la province d'Alep en Syrie le 16 mars dernier, raid qui a fait des dizaines de morts parmi des civils rassemblés dans une mosquée, un rassemblement d'Al-Qaïda selon la version du Pentagone, fait lui aussi à présent l'objet d'une enquête. Alors bien sûr, vaincre les terroristes de l'organisation État islamique plus rapidement grâce à une plus grande utilisation de la force américaine est un objectif digne, écrit The Washington Post, mais le faire au prix d'un nombre plus élevé de victimes civiles serait une grave erreur, dit-il. Ce n'est pas ainsi que doit se gagner une guerre. En réalité, il est même tout aussi important de lutter contre Daesh que de réduire au minimum les pertes de civils dans les zones encore détenues par l'organisation État islamique, car une fois le combat terminé, notamment à Mossoul, le gouvernement irakien dirigé par les chiites devra encore faire face au dur défi politique de stabiliser une ville multi-ethnique, et cela sera d'autant plus difficile à concrétiser si les forces pro-gouvernementales soutenues par la coalition infligent de lourdes pertes à la population.
Merci Thomas Cluzel.